franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, la voix basse de Georges Moustaki expliquée par Maxime Le Forestier, Raymond Viré et Jean Habitbol.
Je me souviens, Moustaki, il chantait toujours bas. Il chantait toujours un deux, trois dixièmes de ton en dessous. Et une fois, je produisais un enregistrement pour lui. Et on commençait à avoir des machines qui nous permettaient de remonter au centième de ton les choses. Donc, pendant qu'il était pas là, je me suis dit, je vais faire l'expérience de remonter un petit peu, de le rendre juste. Mmh. Et effectivement, on avait l'impression qu'il souriait. Et je me suis posé la question, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Et je me suis répondu non. Mmh. Donc, je l'ai ramené là où il était, parce bien que sûr. C'est comme ça qu'il bien entendait. Bien et c'est ça qui faisait peut-être le charme de sa voix. Pareil pour Julien, Claire, qui chante toujours un peu bas. Au début, ça me gênait. Puis, depuis que j'ai accepté qu'il était comme ça et que c'est ça qu'il voulait dire,
c'est une signature.
C'est une signature.
Et cette signature est en soi, lorsque l'on chante, une certaine forme d'œuvre d'art. Est-ce qu'on a le droit, si une sculpture ne nous plaît pas, de la modifier? Certainement pas.
En tout cas, Raymond Viré, vous dites, ne faut jamais dire à quelqu'un qu'il chante faux.
Non, bien sûr que non.
C'est la pire des choses à faire.
Absolument. Non, mais dans ce qui concerne Moustaki, parce que je l'ai fait travailler peu de temps, mais suffisamment jusqu'à son dernier souffle, je peux dire. Et en fin de compte, il ne s'appuyait pas du tout sur son diaphragme. Il aurait chanté juste, je crois.
Oui, ce qui est étonnant, parce qu'il avait fait beaucoup de yoga, il savait respirer.
Il était bancal, il s'occupait de...
Georges Moustaki était bancal, on retient cette phrase, comme on dirait. Mais on aime bien votre sens de la formule.
Il ne travaillait pas avec son corps dans sa globalité, c'est une évidence, je l'ai vu. Je l'ai bien vu à la maison et je lui ai apporté beaucoup de confort. Il a malheureusement interrompu sa dernière tournée. Il m'a appelé de Barcelone en me disant ben là, c'est fini, qu'il arrêtait parce qu'il ne pouvait plus. Mais c'est, comme il était très malade aussi, hein, s'il avait descendu comme toi son diaphragme et laissé faire ses cordes vocales qui sont des merveilles, mais elles font pas tout. Le docteur Fauvadel dit que ce sont des muscles qui vibrent.
Il n'y a pas de oui mais.
Mardi, comment l'homme s'inspire-t-il de la nature avec Serge Berthier et Agnès Guillot?
Objectivement, l'homme ne s'est pas inspiré de la nature. Donc il y a eu cette magnifique exception de Léonard de Vinci, venu trop tôt presque, on peut dire. Mais sinon avant, la nature c'est l'ennemi. Hein, faut pas oublier, l'Homo sapiens c'est une espèce qui n'est pas spécialement armée pour lutter dans la nature, hein. Et donc la nature c'est l'ennemi, on s'en est protégé, et puis bon an mal an on a réussi à l'exploiter, et on l'a tellement exploité qu'on l'a détruite, et que c'est au moment où elle est mourante qu'on commence à se dire qu'il y a peut-être des bonnes idées à prendre là-dedans,
mais oui, parce que justement, c'est presque vous trop dites tard. Que la nature est tellement hostile que précisément les animaux ou les plantes ont développé des stratégies hyper performantes dont on devrait s'inspirer.
Voilà. Mais s'il y a quelqu'un qui s'inspire de la nature en ce moment, c'est la défense.
Oui, alors ça c'est un secteur vraiment...
Alors dans tous les pays, hein, aux États-Unis...
Depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Aux États-Unis, rien que dans la marine, il y a 2000 chercheurs qui font de la bio-inspiration.
Oui.
Et je suis le directeur d'une équipe dont je suis le seul membre en France. Hein, voilà.
En France, donc, voilà.
On est civil, si vous voulez.
Parce que justement, donc, les stratégies dans la nature sont très efficaces dans le domaine précisément de la défense et de l'attaque.
Dans le domaine de la défense et de l'attaque, les stratégies sont extrêmement...
Exemple. Vous pensez à quoi?
Je ne sais pas. Le tout bêtement, un moustique. Comment fait-il pour percer la peau d'une vache? Il y arrive. Ouais. Nous, il nous faut des seringues grandes comme ça, et lui, qui pèse un centième de gramme, il arrive à percer, si vous voulez.
Ouais.
Oui. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. On pourra retrouver des.
Un scarabée qui envoie un jet à je ne sais pas combien de degrés,
fait,
le bombardier, qui envoie un jet absolument d'eau presque, enfin, j'allais dire, pas de l'eau, mais enfin, d'un liquide très, très brûlant.
Très acide.
Ouais. Et alors qu'il concocte ça très, très rapidement dans sa petite.
Donc, les militaires pourraient s'inspirer de ça pour
fabriquer des armes, concrètement?
Écoutez, le militaire, c'est une chose. Mais vous savez, nous, en fait, en tant que roboticiens, on préfère les recherches fondamentales, c'est-à-dire qui font augmenter les connaissances sur le vivant.
Certes, mais enfin, ça, c'est vraiment quand même qu'il y a un secteur,
qui nous intéresse.
Il y a un secteur qui est très intéressé, c'est celui de
l'application. C'est tout à fait vrai.
Mercredi, évitant, anxieux, sécure, les différentes combinaisons de couples possibles selon la théorie de l'attachement avec Marc Pistorio et Ivan Viard.
En fait, toutes les combinaisons existent, ça c'est clair, mais deux insécures ensemble, en fait, si on a deux anxieux ensemble, en général, c'est la fusion totale et il n'y a pas de problème tant qu'il n'y en a pas un qui veut devenir plus indépendant. Si on a deux évitants ensemble, c'est deux vies parallèles, il n'y a pas beaucoup de conflits, mais il n'y a pas non plus d'intimité par définition. Et on a un schéma anxieux évitant, mais là, ce sont des gens qui se courent après en permanence. L'anxieux trouve que l'évitant est trop froid, l'évitant trouve que l'anxieux est étouffant. Donc, ça, ce sont des couples avec lesquels qu'on retrouve beaucoup en thérapie.
Voici une combinaison possible, celle de Stanley Kubrick dans Eyes Wide Shut.
On se calme, Alice, ce pétard te rend trop agressive.
Non ! C'est pas le pétard, c'est toi ! Pourquoi tu ne peux pas me répondre franchement, merde ?
Mais c'est précisément ce que j'avais l'impression de faire. Je sais même pas pourquoi on se dispute.
On ne se dispute pas. Ce que je veux, c'est essayer de voir où tu te situes exactement.
Je vais te dire ce que je sais. Tu es raide défoncée ce soir, t'as envie qu'on se dispute, et par-dessus le marché, tu essaies de me rendre fou de jalousie.
Mais toi, la jalousie, ce n'est pas ton genre.
Non, effectivement.
Tu n'as jamais été jaloux à cause de moi, n'est-ce pas?
Non, c'est vrai.
Et pourquoi tu n'as jamais été jaloux à cause de moi?
Mais je n'en sais rien, Alice. Peut-être parce que tu es ma femme. Peut-être parce que tu es la mère de mon enfant et que je sais que tu es incapable de me tromper.
Tu es vraiment, vraiment sûre de toi, n'est-ce pas?
Voilà, Tom Cruise, Nicole Kidman, Eyes Wide Shut à l'instant. Un commentaire à Marc Pistorio.
Mais en fait,
quelle combinaison on a là pour vous?
Pour moi, en fait, si on avait à trancher, évitant anxieux, et donc à ce moment-là, évidemment, la personne anxieuse est dans la dramatisation et elle a le sentiment que si justement l'autre est jaloux, elle est plus aimée. Ce qui était un décodage complètement inadéquat. Et puis évidemment, l'évitant a du mal à entrer en conflit parce que il va développer toutes les stratégie possible pour éviter d'entrer dans un conflit, donc dans l'explication évidemment d'une intimité avec laquelle il est complètement inconfortable.
Jeudi, les différentes conduites à risque des adolescents chez les filles et chez les garçons avec Xavier Pomereau et David Le Breton.
Quand il s'agit par exemple de prise de risque motorisée, c'est encore beaucoup plus les garçons que les filles. Par contre, on voit les filles rejoindre les garçons du côté du binge drinking, c'est cette façon de boire énormément d'alcool, de se mettre donc en risque par rapport évidemment à toutes ces expositions que peuvent que les prises de substances peuvent poser. Je suis frappé de voir le nombre d'adolescentes, donc de filles de 14-15 ans, qu'on va retrouver bras dessus dans la rue avec leur meilleur ami, une bouteille de vodka à la main, prêtes à toutes les rencontres. Elles le disent d'ailleurs, on est prêtes. C'est des propos, si vous voulez, qui font quand même un peu froid dans le dos.
David Le Breton, les filles expriment leur détresse différemment alors?
Elles intériorisent davantage leur mal de vivre, donc elles sont plutôt du côté des scarifications, des attaques au corps, des plaintes somatiques, des tentatives de suicide, alors que les garçons se tuent davantage. Les garçons sont davantage du côté de ce que j'aime bien appeler les rites de virilité, c'est-à-dire montrer qu'on en a, entre guillemets, être le meilleur. Et donc les garçons sont souvent blessés ou parfois dans des conduites de défi, c'est la vitesse sur les routes, c'est l'alcoolisation extrême, c'est la toxicomanie, c'est la délinquance, la violence, etc. C'est-à-dire, on peut dire que dans les conduites à risque, il y a très souvent une sorte d'affirmation des stéréotypes de genre. J'ai oublié de dire que du côté, enfin, tu le sais bien Xavier, du côté des conduites à risque des filles, il y a aussi tous les troubles alimentaires qui touchent moins les garçons, même si on commence à les toucher.
Voilà, mais moi je suis frappé en ce moment de voir la progression des conduites à risque qui étaient typiquement masculine autrefois, chez de très jeunes filles, c'est-à-dire des moins de 16 ans. Comme s'il y avait une sorte d'appel aussi à se montrer l'égal des garçons en usant et abusant des mêmes substances, en particulier, donc on vient de parler de l'alcool, mais aussi du cannabis.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur le site de La Tête au Carré sur franceinter.fr.